6 personnes arrêtées pour le casse de la station mobile de Moindou. 2 d'entre eux sont des évadés de la prison de Koné. 2 mouvements sociaux aujourd'hui. Le collectif des chauffeurs scolaires de Brousse a décidé de ne pas assurer le service de ramassage aujourd'hui. Et dans les îles, seules les urgences sont assurées dans les CMS. Sudpro redémarre demain. Une 2e session légèrement modifiée par rapport à la première. Explication dans ce journal. Retour sur la présence des jeunes du SMA au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Une expérience de cohésion et de fierté, nous ont-ils dit. En métropole, l'accord commercial signé entre l'Union européenne et les États-Unis fait toujours autant réagir, d'autant qu'il subsiste de nombreux points en suspens. Et puis le sport, avec la suite des mondiaux de natation à Singapour. Cet après-midi, Léon Marchand fera son retour dans les bassins internationaux et le Calédonien Maxime Grousset défendra son titre sur le 100 mètres papillon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 6 individus ont donc été arrêtés pour le casse de la station mobile de Moindou. Parmi les auteurs de ce cambriolage à la voiture Bélier, 2 des évadés de la prison de Koné. C'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué, Nicolas Legrand.
Oui, les faits remontent au 2 juillet dernier. Vers 2h30 du matin, une équipe de 8 individus circulant à bord de 2 voitures volées fracasse le rideau de fer de la station service. Les voleurs ont ensuite fait main basse sur une importante quantité de marchandises chargées dans la benne d'un pick-up. Nourriture, parfums, batterie de voiture ou encore des cigarettes. Montant total du butin, 1 120 000 francs. S'ajoute à cela le préjudice matériel pour l'enseigne, soit 375 000 francs de dégâts sur la devanture. Le Isuzu D-Max qui a servi à fracturer le rideau métallique avait été volé la veille à Dimbéa et avait ensuite été repéré à la tribu de Nakheti à Canala. 2 des évadés de Koné qui ont été interpellés lors du contrôle routier à la fois vendredi se trouvaient d'ailleurs au sein de cette tribu. Les investigations ont été menées sur la base des vidéosurveillances mais aussi des enregistrements téléphoniques et en tout, 6 individus ont pu être identifiés. 3 d'entre eux ont reconnu leur participation aux faits sans avoir pourtant joué un rôle central. Ils ont été condamnés hier à des peines de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, et ont été écroués. Quant aux 2 évadés de Koné, ils seront jugés le 26 septembre prochain sur le renvoi de l'affaire de l'évasion et d'autres vols aggravés à leur demande pour préparer leur défense. Le 6e auteur interpellé sera déféré lors de la même audience. Quant aux 2 autres individus, ils sont en fuite et les investigations se poursuivent pour les interpeller.
Actualité politique et le FLNKS diffère son congrès. À l'origine, la coalition indépendantiste devait réunir un congrès extraordinaire ce samedi 2 août à Bouraï. Mais ses différentes composantes ont décidé de se donner plus de temps, Elisabeth Noir.
Réuni hier, le bureau politique du FLNKS a décidé en effet de fixer au 8 et 9 août son congrès extraordinaire qui pourrait se tenir à la Conception pour débattre sur les perspectives de la poursuite du dialogue sur l'avenir. Un congrès qui devra statuer sur la suite à donner à l'accord de Bougival après que l'Union calédonienne notamment ait décidé de le rejeter formellement. À cela s'ajoutent aujourd'hui les déclarations de Christian Théin qui est en visite en Corse et qui a déclaré être personnellement contre l'accord de Bougival parce qu'il ne répond pas à nos attentes. « Je pense qu'on est trop loin du chemin déjà parcouru », a-t-il dit au téléphone à l'AFP en marge d'une conférence de presse organisée à Bastia par un parti indépendantiste. La pression qui a été exercée sur les uns et les autres pendant cette période de discussion a été terrible, aurait ajouté Christian Théin, qui estime que l'accord de Bougival est quasiment un retour en arrière pour le peuple kanak. Christian Théin, qui est toujours sous contrôle judiciaire après avoir été en détention provisoire pendant 1 an et à qui il est interdit, on le sait, de se rendre en Nouvelle-Calédonie, il a l'intention de participer en visioconférence au congrès du FLNKS. Il faut dire qu'il était déjà intervenu en visio lors du comité directeur de l'Union calédonienne réuni ce samedi à Vaud. Dans ce contexte, on peut rappeler aussi qu'en réponse au communiqué de la commission exécutive de l'UC, le ministre des Outre-mer a adressé jeudi dernier une longue lettre au président, au secrétaire général et aux membres de l'Union calédonienne pour les convaincre du bien fondé de l'accord qu'il qualifie de chance historique. Le refuser, écrit Manuel Valls, ce serait risquer le retour à l'enlisement, à l'incertitude, voire à l'impasse politique aux conséquences durables. Le ministre des Outre-mer évoque aussi dans ce courrier la création d'un comité de rédaction pour associer les forces politiques calédoniennes à l'élaboration des projets de loi constitutionnels et organiques.
L'actualité sociale avec 2 conflits aujourd'hui. D'abord celui mené par le collectif des chauffeurs scolaires de Brousse qui a lancé un mouvement aujourd'hui. Leur action fait suite à la destruction de plusieurs bus à Poya. après un incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet dernier, Michael Juneski.
Et conséquence, les enfants de plusieurs communes de la Grande Terre, La Foy, Bouraille, Conné, Canala, Wailou, Moindou, Ponérouin, Pointe-d'Imier et Poya, n'ont pas pu rejoindre leurs établissements aujourd'hui. Des gérants de services de transport veulent ainsi interpeller l'opinion publique sur un sentiment d'urgence, selon eux, et par solidarité avec la société de Poya, dont 6 bus ont été touchés par un incendie. David Carreux est chauffeur de car à Bouraille et président du district de Nice.
Il y a eu urgence parce que aujourd'hui on demande pour les enfants, l'avenir de nos enfants. S'il n'y a pas de car aujourd'hui, comment les enfants ils peuvent aller à l'école? Si on est là aujourd'hui, il y a Bouraille ici, il y a Poya, il y a Conné, il y a même Wailou qui sont venus, il y a Pointe-d'Imier qui sont ici avec nous pour ce petit problème qui s'est passé. Je veux dire un peu que on n'est pas content par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui ici, tu vois, par rapport à les jeunes qui brûlent les cars, qui brûlent les hôpitaux. On n'a plus d'infirmières, on n'a plus tout ça là. Et on se demande la vie, il va où? On dit aux parents aussi de prendre conscience de ce problème. Et à un moment donné, il n'y a pas de conversation avec les enfants à la maison aussi. Parce que ça commence à la maison tout ça.
Et ce mouvement concerne pour cette demi-journée de mercredi des centaines de scolaires, primaires, collégiens, lycéens, qui empruntent régulièrement le bus pour se rendre dans leur établissement. Le collectif des chauffeurs scolaires de Brousse compte aussi sur le soutien des pouvoirs publics face à ces méfaits qui touchent les moyens de transport des écoliers.
L'autre mouvement social du jour concerne cette fois-ci la santé en province des Îles. La section STKE des Îles Loyauté a lancé un mouvement de grève dans les centres médico-sociaux de Marais, de Lifou et d'Ouvéa. Elle alerte la population sur la dégradation des conditions de travail des personnels soignants et regrette que les syndicats ne soient pas plus impliqués dans les prises de décision face aux restrictions budgétaires. Louis Catraoua est délégué du personnel au sein du comité technique paritaire à la province des Îles et secrétaire général de la section STKE aux Îles Loyauté.
C'est surtout attirer l'attention de la dégradation du secteur de la santé aux Îles. On sait qu'il n'y a pas d'argent. Mais je pense que il y a des choix ou un service de recrutement qu'on peut peut-être aider. Il y a des postes vacants non pourvus. Il y a des services essentiels suspendus. Par exemple, ce sont les familles qui assurent le service de bouche depuis quelque temps. Des locaux insalubres, un sous-effectif chronique, une absence de dialogue structuré. On supprime un poste de dentiste pour prendre une infirmière hygiéniste, alors que tous les infirmiers diplômés d'État, ils ont déjà cette formation hygiène dans leur formation diplômante. Et les infirmiers, on n'en a pas actuellement. C'est peut-être pas judicieux de prendre des infirmiers pour les mettre dans des postes administratifs alors qu'on est en manque d'infirmiers auprès des malades. C'est tout ça qui fait que le discours donné aux représentants syndicaux lorsqu'on rencontre la direction ou l'élu en charge de la santé, après, sur le terrain, on voit qu'il y a vraiment un décalage. On prend conscience de la situation, mais il y a eu des choix peut-être qui n'étaient pas judicieux ou qu'on ne comprend pas.
Les conséquences de ce mouvement de grève aujourd'hui, seules les urgences sont assurées dans les CMS des îles Loyauté. La section STKE tient des réunions pour informer la population sur ces actions. À propos de santé, notez que les 7 premiers infirmiers recrutés grâce au kit attractivité de la province sud ont été installés. La mesure vise à faciliter leur installation justement. Les professionnels de santé bénéficient pour lui et leur famille davantage pour couvrir ses frais d'installation. Le kit individuel comprend une aide financière de 730 000 francs assortie de bons d'achat pour des prestations de loisirs et de tourisme. Le kit famille comprend, lui, une aide d'1 240 000 francs et 4 chèques cadeaux pour des loisirs. En échange, ces infirmiers s'engagent à travailler pendant au moins 18 mois en province sud. L'objectif est de renforcer l'attractivité du territoire pour répondre aux besoins urgents du système de santé et garantir la continuité des soins. Un infirmier travaillera à l'EHPAD La Cordeline, 3 à l'Attire, 2 autres à l'unité de dialyse et enfin 1 à la clinique Quindomania.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Les élus ont-ils eu raison, selon vous, de durcir les conditions d'éligibilité au dispositif Continuité Pays pour les habitants des îles? Si vous pensez qu'ils ont eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils ont eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent regretter la fin de l'opération « Livre mon ami » qui depuis 1997 favorisait la lecture chez les jeunes de CM2 et de 6e. Ils sont 11% à ne pas regretter la fin de cette opération. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Nous parlerons juste après de la relance de Sudpro par la province sud, une deuxième session qui commence demain. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Jusqu'au 19 septembre, les mois du Super Taux reviennent à la BCI. Réalisez toutes vos envies grâce à un taux exceptionnel sur le prêt conso grande vitesse. Avec toujours votre accord de crédit sous 24 heures et le versement sur demande des fonds sous 8 jours. C'est le moment d'en profiter. BCI. Ensemble, voir plus loin. Offre valable du 7 juillet au 19 septembre 2025, réservée aux particuliers et soumise à conditions.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de ce journal avec le retour de Sud-Pro. Une deuxième session du dispositif mis en place par la province Sud démarre demain avec des modifications par rapport à la première session dont nous allons parler avec Charlène Gauthier qui est la directrice adjointe de la Direction du développement économique et du tourisme pour la province Sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avant de parler de cette deuxième session de Sud-Pro, un rappel sur l'origine de ce dispositif et son but. Et il s'agissait pour la province d'aider les petites structures économiques souvent oubliées de la crise. C'était bien ce qui avait été mis en place.
Exactement. Exactement. Donc Sud-Pro, c'est un dispositif d'aide économique qui a été voté le 24 avril dernier par l'Assemblée de la province Sud. Il est 100% numérique, ce dispositif. Il est simplifié. Il avait en fait un double levier. On avait des bénéficiaires, on a toujours des bénéficiaires et des prestataires qui peuvent s'inscrire sur la plateforme. Les bénéficiaires bénéficient de Crédit Sud qu'ils peuvent utiliser auprès de prestataires inscrits sur la plateforme. Et la province Sud s'engage à pouvoir régler les dépenses que font ces bénéficiaires auprès de ces prestataires. Donc il y avait plusieurs objectifs. Il y avait un, justement, vous le disiez, le public qui était les patentés et les TPE, puisqu'on s'était rendu compte que dans un contexte économique fortement dégradé, que la succession de plans d'urgence qui avaient eu lieu jusqu'alors, on avait un peu ce public d'entreprise qui était un peu oublié. Et donc c'est pour ça que cette plateforme leur est dédiée pour maintenir leur activité ou les aider à reprendre leur activité et aussi de stimuler l'économie et les échanges commerciaux.
Alors cette plateforme a rencontré un gros succès. Aujourd'hui, elle compte plus de 10 000 inscrits, c'est bien ça ?
C'est ça. Donc ce matin, 10 328 inscrits très précisément, dont 9 300 éligibles au Crédit Sud, c'est-à-dire les bénéficiaires, c'est-à-dire notre public de patentés et de TPE. Donc je rappelle, moins de 2 salariés également inscrits avant le 1er mars 2025 au RIDET et donc dont le siège social est en province Sud.
Alors comment ça va fonctionner ? Parce qu'on l'a dit, c'est une session qui va être un peu différente de la première parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été renouvelés dans ce dispositif. Pourquoi ? Et quels sont ces secteurs ?
Exactement, puisqu'on a donc un budget de 480 millions qui va être découpé, entre guillemets, en 4 sessions. Donc la première session commence demain, le 31 juillet. Puis toutes les 3 semaines, la plateforme sera réouverte et le budget réalloué. La différence, comme vous le disiez, par rapport à la première version, c'est que les commerces sont exclus. Pourquoi ? Parce que, un, nous avons moins de budget. Deux, le secteur du commerce a bénéficié de 2/3 du budget précédent, qui était d'1,2 milliard, le budget global, donc ça fait à peu près 700 millions. Donc on voulait pouvoir laisser la possibilité de pouvoir dépenser auprès d'autres secteurs d'activité, comme le numérique, revente de matériel informatique, ou encore le BTP, la production et la fabrication, etc.
Alors concrètement, quelqu'un qui a des prestations à réaliser et qui est inscrit sur Sud-Pro, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire solliciter éventuellement un prestataire, établir un devis, il y a une vérification, comment ça marche ? Quel est le processus ?
Alors oui, cette deuxième version de Sud-Pro a été annoncée déjà depuis la fin juin, pour laisser justement le temps aux entreprises de pouvoir demander leur devis. Donc ils ont dû les recevoir et les mettre sur la plateforme. Et c'est demain, le 31 juillet, c'est à ce moment-là uniquement qu'il faudra valider le devis. Une fois le devis validé, nous allons tout comme nous l'avions fait à la première version, effectuer des contrôles. Mais cette fois-ci, des contrôles non pas à la facture validée, mais au devis validé, pour que le bénéficiaire puisse savoir si sa dépense est bien éligible ou si elle ne l'est pas, et pouvoir commencer à faire les travaux une fois qu'ils ont... Ils ont le hockey de la province.
Alors bien sûr, il n'y a pas de durée hein, pour cette deuxième session. Ça dépendra évidemment des crédits alloués. Vous l'avez rappelé, 480 millions pour 4 sessions. Donc il y en a 120 pour cette,
c'est ça,
cette première
session,
celle qui démarre demain.
Voilà, pour celle qui démarre demain le 31 juillet, puis le 21 août, puis le 12 septembre. Et enfin le 4 octobre pour se terminer le 26 octobre.
Et après, Charlène Gauthier, est-ce que cette plateforme SudPro pourrait servir à d'autres choses ? Est-ce que la province réfléchit ? Parce que c'est finalement la création d'un fichier qui est assez unique.
Bien entendu. Alors, tout dépend du budget qui sera alloué sur la plateforme. Mais au-delà de ça, cette plateforme, elle a été pensée, elle a été innovante. Il faut qu'on continue de s'adapter, justement, par rapport aux transactions qui peuvent être faites, de se réinventer aussi et de garder cette plateforme qui est dédiée aux entreprises et aux professionnels pour pouvoir, un, continuer à se mettre en relation sur cette plateforme et peut-être y inclure d'autres dispositifs de la province sud.
Charlène Gauthier, directrice adjointe de la Direction du développement économique et du tourisme pour la province sud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
Merci à vous.
Le dispositif Cadre Avenir continue cette année encore. Depuis 1989, il offre une aide aux Calédoniens qui souhaitent devenir cadre moyen ou supérieur. Un accompagnement financier, mais aussi pédagogique qui fait ses preuves avec près de 90% de réussite chaque année. 53 étudiants vont pouvoir bénéficier de l'aide cette année. Ils quitteront le territoire dans quelques semaines avec pour projet de revenir en Calédonie et de participer au développement du territoire.
C'est une énorme aide, surtout pour mes parents qui vont pouvoir être soulagés évidemment. Je pense que cette bourse aide à faire revenir des Calédoniens parce qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin. Je pense que le territoire a besoin de ça, de nouvelles choses, de nouvelles personnes et surtout de la jeunesse qui va faire de superbes études.
Ça me permet de poursuivre une formation en alternance qui n'a pas été possible avec la Bourse des îles ou la Bourse d'État. Et ça me permet aussi d'avoir un suivi pédagogique. Ça nous permet justement de pouvoir subvenir nous-mêmes à nos propres besoins en cadre et en personne haut placée. C'est très inspirant, c'est de voir justement qu'on peut y arriver. Au final, on n'est pas bloqué par notre situation ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a des dispositifs comme Cadre Avenir justement qui nous permet, malgré les difficultés financières, pouvoir justement partir en métropole et continuer nos études.
Et ces jeunes ont été encouragés par le haut-commissaire Jacques Billan hier soir. L'État est en effet, depuis sa création, derrière ce dispositif Cadre Avenir qui pourrait évoluer dans les prochaines années.
Nous célébrons la 36e promotion qui porte désormais à près de 2200 le nombre de personnes qui auront pu bénéficier des programmes Cadre Avenir. Comme tout dispositif, il doit évaluer et c'est la raison pour laquelle, dès la fin 2024, dans le renouvellement de ce qu'on appelle la convention constitutive du GIP Formation Cadre d'Avenir, dont l'échéance avait été fixée au 14 décembre 2025, eh bien une évaluation a été lancée par la Direction Générale des Outre-mer et elle doit nous donner, cette évaluation, de nouvelles perspectives pour la prochaine décennie. Notre objectif, il est simple, c'est de former encore et toujours mieux les cadres néo-calédoniens de demain.
Ce dispositif 400 cadres, désormais baptisé Cadre Avenir, finance la formation des cadres calédoniens à hauteur de 650 millions de francs par an. En bref, notez que le prix des carburants va augmenter le mois prochain, une situation liée à la hausse des cours du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient. À partir de vendredi, le litre d'essence sera vendu 157,10 francs en station, soit 1,70 francs de plus que ce mois-ci. Le gasoil affichera 138,70 francs le litre, soit une hausse de 3,70 francs par rapport au prix du mois de juillet. Ils ont défilé sur l'une des plus belles avenues du monde. 74 membres du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie ont participé au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Parmi eux, une cinquantaine de jeunes volontaires, de jeunes Calédoniens âgés de 18 à 25 ans. Ils ont vécu une expérience inoubliable, nous ont-ils confié, Charlotte Coulson.
Honneur, franchise, loyauté et discipline, ce sont des valeurs que les volontaires se sont engagés à suivre lors de leur entrée au RSMA. Des valeurs qui les ont portés, pour certains, jusqu'à Paris. Cette année, le régiment de Nouvelle-Calédonie a été choisi pour défiler aux Champs-Élysées. Une lourde tâche, mais aussi une grande fierté pour ces Calédoniens qui n'ont pas été sélectionnés au hasard. Parmi près de 500 volontaires, seuls une cinquantaine de jeunes se sont envolés pour la capitale, encadrés par le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, chef de corps du du RSMANC.
Effectivement, il a fallu les choisir et ça s'est fait avant tout sur les valeurs que porte le régiment du service militaire adapté, à savoir celle du comportement et du savoir-être. Donc la première des consignes que j'ai donnée à mes commandants d'unité, c'était de désigner des jeunes qui sont méritants et particulièrement investis dans leur formation sociale et professionnelle. Que vous savez que le régiment est implanté sur 4 sites différents. Donc on a décidé de désigner des jeunes et des cadres sur chacune de nos emprises parce que je voulais que le régiment défile de manière représentative. De la même manière, on a désigné des jeunes femmes puisqu'elles sont 40% à servir au régiment et je tenais à ce que ce taux soit respecté également dans le détachement.
Après leur sélection, ce sont donc 74 cadres et volontaires qui se sont préparés depuis le mois de juin pour ce grand moment. Il a fallu s'entraîner, bien sûr, déjà sur le territoire à Koné et puis plus tard à Paris. Des moments parfois difficiles pour la jeune caporal-chef Anne-Laure, âgée de 24 ans. Elle est originaire de Pointe-d'Imier et volontaire au RSMA depuis 2 ans et demi.
Tous les mardis du mois, on allait sur Koné avec les 3 compagnies, c'est-à-dire Kouma, Koné et Bouraille. On était tous réunis ensemble pour pouvoir préparer tout ça. C'était une préparation très physique. Et mental aussi, comme il fallait bien travailler sur les bras, le balancement des bras, être aligné, comme dans les colonnes et les rangées, c'était très dur.
Et après, vous avez découvert du coup l'organisation du 14 juillet là-bas, c'est comment ?
Pour moi, le voyage était très long. C'était ma première fois dans l'Hexagone. C'était très dur, surtout les décalages horaires, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Et notre préparation, on se levait très tôt le matin, 2h à 3h du matin, pour pouvoir aller sur les Champs-Élysées. Fini la répétition aux Champs-Élysées, on allait à Satory. Et là, par contre, on était avec la moitié des troupes à pied. On était plus de 2500 personnes quand même. Et sinon, c'était toujours de la concentration, de la discipline et de la rigueur.
Des semaines de préparation intense, de stress, mais aussi d'excitation, pour au final 10 minutes spectaculaires de défilé. C'est court et long à la fois, surtout lorsqu'on arrive sur le sol métropolitain pour la première fois à tout juste 24 ans et qu'on est entouré de près de 6000 militaires défilants.
Le jour J du 14 juillet, ça commence à 10h. On est arrivé là-bas pour 6h. Mais on était quand même stressés. Comme il y avait tout le public qui était là, qui nous regardait. Là, c'est la première fois que je voyais autant de monde. C'était très stressant, on avait beaucoup d'adrénaline. Et en plus des applaudissements, on n'entendait pas trop la musique. Du coup, on stressait pour éviter de perdre le pas. Comme à un moment, on n'entendait plus la musique, mais ça va. On a réussi, on a bien défilé. Et après, pour finir notre défilé, on a chanté le chant régimentaire, qui est le chant de Ningoné. Et on a chanté dans les rues de Paris et on nous entendait au loin, tellement qu'on chantait très fort. Et on était heureux, on était contents de tout le travail qu'on a fait depuis ici jusqu'à Paris. C'était un mélange d'honneur et de fierté pour moi. C'était une fierté aussi pour nous tous de représenter les Outre-mer, plus précisément la Nouvelle-Calédonie.
Un grand moment pour les volontaires du régiment, mais aussi pour les encadrants qui les ont accompagnés. C'était le cas du lieutenant-colonel Révillon.
J'ai 2 choses qui m'ont marqué. D'abord, c'est la fierté que j'ai eue à défiler à la tête de ces jeunes, puisque ça arrive peu souvent pour un chef de corps d'avoir l'honneur de défiler à la tête de son régiment sur les Champs-Élysées. Et je sais que cette fierté a été partagée par les jeunes du RSMA, puisqu'ils ont eu le sentiment de représenter à la fois leur régiment, bien sûr, mais à la fois leur territoire, leur tribu, leur village. Et ça, ça les a marqués et ça m'a marqué également en tant que chef.
Ce défilé du 14 juillet à Paris, c'était un grand moment de cohésion et de fierté qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ces cadres et volontaires. Les images de leurs prestations sont à visionner sur la page Facebook du RSMANC.
Radio Rythme Bleu, il est 11h53.
Avec plus de 100 agents présents en Nouvelle-Calédonie, le site IRD de Lansvata constitue la plus grosse représentation de l'Institut de recherche pour le développement dans le monde. Valérie Verdier, PDG de l'IRD, termine une visite sur le territoire et elle était ce matin notre invitée. L'une des spécificités de l'IRD, a-t-elle expliqué, c'est par la recherche de mener des missions d'appui aux politiques publiques et à l'action diplomatique de la France.
L'IRD est là pour apporter des solutions par la recherche. C'est-à-dire quand il y a un problème qui est posé par nos citoyens du territoire, par les politiques, on essaie d'y répondre du mieux possible. Et donc c'est en cela qu'on participe à éclairer du mieux possible les politiques publiques. C'est avant tout, comme je dis, développer une recherche qui soit portée sur l'action et la compréhension en fait des phénomènes, notamment ici en Nouvelle-Calédonie, les effets du changement climatique, la préservation de la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine. Donc on a vraiment un rôle d'information et aussi d'information de nos citoyens et du public. Et puis on participe effectivement à la diplomatie, je dirais, scientifique. Et donc c'est vraiment aussi apporter un autre regard dans les échanges bilatéraux, multilatéraux à travers la recherche.
Une recherche qui s'oriente vers une prise en compte accrue des enjeux de la transition écologique, mais aussi de l'adaptation au changement climatique.
Il y a un projet qui est financé par la communauté européenne, qui s'appelle le projet HOP, et qui est une bouée que je suis d'ailleurs allée voir, qui récolte des informations extrêmement importantes sur ce qui se passe au niveau de la biodiversité marine, mais pas que. C'est une bouée instrumentée qui est absolument extraordinaire, hein, c'est unique au monde, et donc ça va apporter une masse d'informations vraiment importante pour les chercheurs et pour la communauté internationale. Il y a des travaux sur la compréhension de l'évolution de la biodiversité forestière, qui est en lien aussi avec d'autres îles du Pacifique, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji. Et donc c'est un nouveau projet qui participe aussi de la compréhension mondiale de l'évolution du climat sur les forêts. Ça va informer aussi, par exemple, très pratiquement les politiques sur comment prévenir les incendies, par exemple.
La PDG de l'IRD, Valérie Verdier, quitte le territoire demain pour le Vanuatu, où l'Institut organise une école d'été sur les sciences marines. Elle espère revenir l'an prochain pour souffler les bougies des 80 ans de présence de l'IRD sur le territoire. Notez, avant de marquer une nouvelle pause dans ce journal, qu'il y a encore eu un gagnant aujourd'hui au jeu SMS Radio Rythme Bleu au 40-20. C'est Émilien de Népouy qui a envoyé son SMS au bon moment aujourd'hui. Au bon moment, puisqu'il remporte 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où il veut, quand il veut, pour être le prochain gagnant. Envoyez donc dès maintenant RRB au 40-20. Et pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas encore gagné, soyez patients. Tous les SMS envoyés sont remis en jeu pour le prochain tirage au sort du million. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et à 11h57, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Lucos Quincaillerie est à Bouray. Découvrez Bouray Bricolage. Sur plus de 300 mètres carrés, des milliers de références, une équipe locale et des offres promotionnelles. Rendez-vous en magasin ou appelez le 322-332.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole avec la suite de l'accord commercial signé entre les États-Unis et l'Union européenne. Tous les produits européens entrant sur le sol américain seront désormais taxés à 15%. Un accord qui est loin de faire l'unanimité, critiqué par la plupart des partis politiques. Il faut dire que de nombreux points restent en suspens. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
À commencer par la validité juridique de cet accord. Il a été signé par la Commission européenne, mais avant d'entrer en vigueur, il doit être ratifié par les États membres. L'accord recèle de multiples zones d'ombre. Il prévoit 15% de droits de douane sur la plupart des marchandises exportées aux États-Unis, y compris les voitures soumises jusqu'ici à des surtaxes de 25%, mais un certain flou règne sur les exemptions de surtaxes qui concernent des secteurs stratégiques. La Commission évoque l'aéronautique, certains médicaments génériques et des produits chimiques, mais rien en ce qui concerne la filière des vins et spiritueux européens. Face à ces maigres concessions, la Commission a lâché très gros. Une quasi-dépendance énergétique à l'égard des États-Unis, avec la promesse d'importer 700 milliards d'euros sur 3 ans d'hydrocarbures américains, principalement du gaz naturel, alors même que les capacités maximales de production américaines sont déjà atteintes. Enfin, il y a cet engagement d'investir au moins 550 milliards d'euros aux États-Unis d'ici 2029. Sauf que la Commission ne dit pas quelles entreprises ont manifesté leur intérêt et quel montant elles seraient capables d'investir.
Toujours en métropole, le ministre de la Justice a présenté son projet de réforme pénale. Gérald Darmanin veut réintroduire du bon sens dans le fonctionnement de la justice. Et parmi ses propositions, réformer la peine avec sursis pour la transformer en avertissement. Ce serait réservé uniquement aux personnes dont le casier judiciaire est vierge.
Ça manque parfois de bon sens dans le fonctionnement classique, en matière civile comme en matière pénale. Que des gens puissent avoir plusieurs sursis d'affilée, c'est le contraire du mot sursis. Le sursis, c'est un carton jaune, comme dans le football. Et ben, au bout de deux cartons jaunes, on va avoir un carton rouge. Si on multiplie des cartons jaunes, on n'est plus très crédible.
Et Gérald Darmanin veut également rétablir les courtes peines de moins d'un mois qui avaient été supprimées par l'un de ses prédécesseurs, Nicole Belloubet. Le Royaume-Uni va suivre l'initiative française. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé que son pays allait reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Une proposition qui continue de susciter de vives oppositions, surtout que le Hamas a refusé la dernière proposition de cessez-le-feu. Dans une déclaration commune, 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte, ont appelé le Hamas à déposer les armes. En attendant, la France a décidé d'envoyer 40 tonnes d'aide humanitaire à Gaza. Jacques Serey pour Europe 1.
Paris procédera dans les prochains jours à des largages aériens, c'est ce qu'annonce le Quai d'Orsay. Il s'agit de répondre aux besoins les plus essentiels et les plus urgents de la population civile gazaoui, justifie le ministère des Affaires étrangères qui indique également travailler à des acheminements par voie terrestre. En parallèle, Jean-Noël Barrot pourrait se rendre en Israël. L'annonce de ce potentiel déplacement a été ébruitée par le chancelier allemand Friedrich Merz. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France vont probablement demander jeudi de la semaine prochaine alors trois ministres des Affaires étrangères de se rendre ensemble en Israël pour demander davantage d'aide humanitaire à Gaza, a-t-il signalé. Berlin, Londres et Paris mettent ainsi la pression pour un cessez-le-feu à Gaza, une campagne qu'Israël juge biaisée puisque le Hamas est toujours au pouvoir et qu'il détient toujours 49 otages.
Toujours à l'étranger, une nouvelle fusillade mortelle aux États-Unis. À New York, un homme de 27 ans s'est introduit dans un immeuble où se trouve le siège de la NFL, la Ligue de football américain. Il a tué 4 personnes avant de retourner son arme contre lui. Il en voulait à la NFL qu'il accusait de lui avoir causé une maladie cérébrale dégénérative. C'est un billet trouvé sur lui qui a permis aux enquêteurs de comprendre ses motivations, a confirmé le maire de New York, Eric Adams.
Oui, il avait bien une note sur lui. La note faisait allusion au fait qu'il pensait souffrir d'une encéphalopathie traumatique chronique, une lésion cérébrale connue chez les personnes qui pratiquent des sports de contact. Il semblait reprocher sa blessure à la NFL.
Cette fusillade mortelle est la 254e recensée sur le sol américain depuis le début de l'année. Et puis en bref, notez qu'une alerte au tsunami a été émise par les autorités américaines et japonaises après qu'un séisme de magnitude 8,7 sur l'échelle ouverte de Richter a eu lieu au large des côtes russes de la péninsule du Kamtchatka vers 10h25 ce matin, heure de Nouméa. Les autorités américaines alertent sur un risque de vagues de plus de 3 mètres de haut sur certaines parties des côtes de la Russie et de l'archipel de Hawaï. Des vagues entre 1 et 3 mètres pourraient aussi toucher le Japon et l'île américaine de Guam, précise le centre américain des tsunamis basé à Hawaï. Notez que cette alerte au tsunami ne concerne pas la Nouvelle-Calédonie. Midi et 2 minutes, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducose, 27 74 20 ou sur Facebook.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La dernière partie d'Infomag avec l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et de la natation et une deuxième médaille pour le camp tricolore Lionel Sabot au championnat du monde à Singapour.
Ah oui, il s'appelle Johan Ndoye Brouard, il a 24 ans et la nuit dernière, figurez-vous qu'il a décroché sa toute première médaille dans une grande compétition internationale. Johan Ndoye Brouard a terminé 3e de la finale du 100 mètres d'eau avec un chrono de 51 secondes 92 centièmes, ce qui lui permet en prime de battre le record de France de la distance, record détenu depuis 10 ans par Camille Lacour. Johan Ndoye Brouard qui a devancé le Sud-Africain Peter Kotze et l'Américain et l'Italien pardon, Thomas Tchekhon. Écoutez Johan Ndoye Brouard.
Je savais qu'en arrivant là, on a nagé moins de 52 pour monter sur le podium et je l'ai fait. Quand j'ai parlé avec mes coachs, Michel m'a dit tu l'attends ce soir? Je lui ai dit non, il faut que je reste sur mes atouts. C'est le retour, je les aurai au retour, il faut que je reste calme. Et je l'ai fait. C'est indescriptible ce genre d'émotion.
Voilà pour la joie de Johan Ndoye Brouard, médaillé de bronze donc sur 100 mètres d'eau. Ces championnats du monde se poursuivent évidemment aujourd'hui. À suivre, Maxime Grousset qui, après son titre mondial sur 50 mètres papillon, défendra son titre sur le 100 mètres pape. Maxime qui sera dans le bassin de Singapour tout à l'heure, 13h49 pour sa série. Et puis nous suivrons également l'entrée en lice dans ces championnats du monde de Léon Marchand. Le quadruple champion olympique participe pour sa toute première participation majeure depuis les JO l'an dernier. Écoutez Léon Marchand.
C'est le meilleur moment de l'année en fait. Je suis excité, j'ai bien préparé mes dernières semaines.
Là, il y a un vrai enjeu, donc je suis content. Ouais. J'ai envie de battre le record du monde du 200 mètres tête nage. Ma curiosité m'amène à enlever des courses avant pour essayer de nager le plus vite possible.
Et Léon Marchand qui sera dans le bassin de Singapour cet après-midi. Il sera dans la 5e série de qualifications, départ 14h17.
Allez, on va passer au cyclisme pour faire le point sur le Tour de France féminin. On courait cette nuit la 4e étape.
Oui, une étape longue de 131 km entre Saumur et Poitiers. C'est la néerlandaise Lorena Vibbs qui s'est imposée au sprint devant sa compatriote Marianne Vos et l'irlandaise Laura Gillespie. Au classement général, Marianne Vos conserve son maillot jaune de leader avec 12 petites secondes d'avance sur Lorena Vibbs et sur Kimberley Pignard-Lecourt. La Française Pauline Ferrand-Prévot est quatrième à 18 secondes de sa coéquipière Marianne Vos. La nuit prochaine, ce sera la 5e étape entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret, 166 km. Ce sera l'étape la plus longue de ce tour féminin.
Midi et 6 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez bien sur Radio Rythme Bleu. Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. 13h, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi.